Bonjour à tous. Donc ouvrons nos Bibles en 2 Chroniques, au chapitre 15. Deux Chroniques 15, et donc je vais lire la totalité du chapitre. Deux Chroniques, chapitre 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché. Et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené, 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort. Et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel, à voix haute, avec des cris de joie, et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa enleva même à Maka, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière, et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Donc nous allons étudier ce passage avec une attention toute particulière au verset 2, dont tout le passage est une illustration. Donc ce verset qui nous dit « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Donc notre message va être composé de 5 parties. Premièrement, on va regarder le contexte historique. Deuxièmement, on va voir que Dieu utilise des calamités pour nous pousser à le chercher. Troisièmement, nous allons étudier donc une promesse rassurante de la part de l'Éternel pour ceux qui le cherchent. Quatrièmement, nous allons regarder ce que veut dire chercher l'Éternel. Et cinquièmement, nous allons regarder une mise en garde solennelle pour ceux qui l'abandonnent. Donc tout d'abord, premier point, le contexte historique. Donc Asa est le cinquième roi depuis David. Donc on a eu David, Salomon, Roboam, Abijah, Asa. Et donc il est le troisième roi du royaume de Juda, puisque le royaume s'est séparé après Salomon, entre le royaume du Nord, Israël, et donc le royaume de Juda. Donc Asa a régné très longtemps, 41 ans, et son règne commence donc aux environs de 910 avant Jésus-Christ. Et c'était un bon roi. De Chroniques 14:1 dit de lui, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Le chapitre que nous avons lu se déroule probablement entre la 10e et la 15e année de son règne, plutôt vers la 15e année. Et au chapitre 14, on voit qu'après 10 ans de règne, on ne sait pas exactement quand, mais après 10 ans de règne, il a remporté une très grande victoire contre les Éthiopiens, qui étaient venus avec une armée d'1 million d'hommes. Et donc il a remporté cette victoire en se confiant à Dieu. Et on lit en 2 Chroniques 14, 10, vous pouvez regarder avec moi. Donc il a une prière à Dieu avant cette bataille contre les Éthiopiens. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Donc Asa est un homme qui se confie en Dieu. Il est le fils d'Abijah, et Abijah a une expérience similaire. Il a battu une armée du royaume du Nord, qui était deux fois supérieure en nombre. Il l'a fait lui aussi en se confiant à Dieu, et on peut regarder au chapitre 13 dans Chronique, le verset 10. On peut lire un extrait de l'exhortation, de la mise en garde qu'il donne à son ennemi, donc Jéroboam, le roi du royaume du Nord. Et il lui dit, verset 10, chapitre 13, « Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons point abandonné. » Et fin du verset 11, « Et vous, vous l'avez abandonné. » Verset 12, « Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. » Enfin, il y a également, donc, Asa a eu un fils, qui est Josaphat, qui lui aussi est un homme pieux. Et en particulier, lui aussi remportera une grande victoire contre une multitude nombreuse des fils de Moab et des fils d'Ammon et des habitants de la montagne de Séir. Et lui aussi le fera en se confiant à l'Éternel. On le voit donc en 2 Chroniques 23, je lis pour vous, juste ce verset. « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. » Donc on a donc affaire à une lignée d'hommes pieux qui sont habitués à chercher l'Éternel. Mais cette lignée fait suite à une période de déclin spirituel, un déclin sur le plan spirituel, pendant le règne de Roboam, qui était le père d'Abijah et dont 2 Chroniques 12, 14 nous dit qu'il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Et on sait aussi que Salomon, le père de Roboam, dans sa vieillesse, alors qu'il avait bien commencé, mais dans sa vieillesse, il se détourna de l'Éternel et alla vers les divinités des autres peuples à cause de toutes ces femmes en fait, qu'il avait eues et qui étaient des idolâtres. Et donc on lit en 1 Roi 11, 4 que son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Et ça explique donc pourquoi d'ailleurs on voit que Asa doit purifier les abominations en Israël. Donc on voit ça au verset 8, et ça remonte probablement à l'époque de Salomon et de Roboam. Donc dans le deuxième livre des Chroniques, notre chapitre, comme je disais, se place juste après le récit de la victoire contre les Éthiopiens, et avant la 15e année de son règne, puisqu'on voit ça au verset 10. Et c'est donc dans cet intervalle de temps que Dieu envoie à Asa, le prophète Azaria. Donc on va maintenant venir à notre deuxième point. On va regarder ce que dit Azaria. En particulier, nous allons regarder le fait que Dieu utilise, il envoie des calamités, pas d'autres mots, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, il envoie des calamités sur les peuples ou sur les personnes pour les inciter à le chercher. Et donc au verset 2, donc le prophète énonce son exhortation, qu'on va étudier après, à chercher Dieu, mais tout de suite il donne l'illustration de ce principe au verset 3. Et donc on lit au verset 3, verset 3 à 5. « Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché. Et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il n'y avait de grandes troupes parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. » Donc le prophète fait très probablement référence à l'époque des juges, qui était une époque de grands troubles. Et donc dans le livre des juges, qui se déroule entre l'Exode dans les années 1400 et la royauté de David dans les années 1000, on a une répétition d'un cycle historique qui se répète, et qui est le suivant. Le peuple abandonne Dieu. Dieu livre le peuple entre les mains de ses ennemis. Le peuple crie à Dieu. Dieu leur envoie un juge pour les délivrer. Et à la mort du juge, le peuple retourne vers les faux dieux. Donc on a ce, ce cycle qui se reproduit. Mais on voit que tout ça arrive sous le contrôle de Dieu. On voit cette phrase donc là, qui illustre la souveraineté de Dieu, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Et on voit que c'est à cause de ces angoisses que les hommes se tournent vers Dieu, puisqu'il dit « Au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. » Vous connaissez sans doute C.S. Lewis, qui était un chrétien donc, anglais du XXe siècle, et assez réputé notamment pour ses chroniques de Narnia, et il avait fait cette réflexion que la souffrance est le haut-parleur de Dieu. On se demande souvent quel est le sens de la souffrance, quel est le sens de ces calamités qui frappent des familles et qui frappent des peuples. Et on a la réponse ici. Au sein de leur détresse, ils se sont retournés à l'Éternel. Et dans notre nature pécheresse, nous sommes tellement oublieux, facilement oublieux de Dieu quand tout va bien, que Dieu est obligé d'avoir recours à notre propre souffrance pour nous ramener à lui. Et c'est le sens du châtiment infligé par Dieu à son peuple, et qui est décrit en Hébreux 12, 10, où on voit que Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il y a une femme de Dieu, Corrie ten Boom, donc qui était une néerlandaise, qui était chrétienne et qui était dans les camps de concentration parce qu'elle avait fait beaucoup pour les juifs dans son pays, et elle avait été privée de tout. Cette femme avait été privée de tout dans les camps de concentration, elle a fait cette réflexion magnifique où elle a dit « Vous ne pourrez jamais apprendre que Christ est tout ce dont vous avez besoin tant que Christ ne sera pas tout ce que vous avez. Vous ne pourrez jamais apprendre que Christ est tout ce dont vous avez besoin tant que Christ ne sera pas tout ce que vous avez. » Elle a fait l'expérience que dans le dénuement total qui était le sien dans les camps de concentration, elle s'est rendue compte que on a enlevé toutes ces choses inutiles, finalement, de la vie. Il lui restait Christ, et c'est tout ce qui lui restait. C'était le plus important. Mais ça, elle l'a découvert, évidemment, dans une très grande souffrance. Alors, pour quelle raison le prophète Azaria parle-t-il à Asa, donc de ces Juifs du temps des juges, et de leurs souffrances qui les ont poussés à se tourner vers Dieu? Eh bien, c'est qu'Asa lui-même vient de recevoir une calamité de Dieu. Sa situation correspond bien à ce que dit le prophète quand il dit qu'on se heurtait peuple contre peuple. Là, il a eu une armée d'un million d'Éthiopiens qui est venue le menacer de destruction. Donc c'était vraiment... Alors, même s'il a eu la victoire, je dirais que ça a dû quand même pas mal le secouer. Et l'intervention du prophète, d'ailleurs, le laisse entendre clairement, parce qu'on voit qu'il a besoin d'encouragement, puisqu'il lui dit « Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Et c'est intéressant de noter qu'on trouve un texte presque le même aussi dans Hébreux 12:12, où il dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Donc on voit donc dans cette première partie de mon message que dans sa grâce, Dieu prend l'initiative pour que nous le cherchions. Il envoie des calamités aux hommes pour les pousser à se tourner vers lui. Et c'est toujours lui qui est l'auteur du salut, du début à la fin. Il suscite la foi et l'amène à la perfection. Maintenant, on va regarder, dans la deuxième partie de ce message, une promesse rassurante, très rassurante de la part de l'Éternel pour ceux qui le cherchent. Et donc, elle se trouve au verset 2, que je relis. « Écoutez-moi, Asa et tout Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Donc on va regarder en premier la promesse qui est contenue dans ce message. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Puis à la fin de notre message, on regardera la mise en garde solennelle. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Et je voudrais que nous mesurions la portée de ce message et combien il est encourageant. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses et qui les fait subsister. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le juge de toute la terre et le très haut, donc qui est un personnage absolument inaccessible par tous ses attributs, eh bien il nous dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous êtes avec moi, je suis avec vous. Et l'apôtre Jacques nous dit exactement la même chose dans son épître, où il nous dit « Approchez-vous de Dieu », chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et cette familiarité, si je puis m'exprimer ainsi, cette facilité d'accès, elle est complètement déconcertante quand nous savons à qui nous avons affaire. Et vous ne pouvez certainement pas dire la même chose du président de la République ou de la reine d'Angleterre. Si vous allez au palais d'Élysée ou à Buckingham Palace et que vous cherchez à vous approcher de ces personnes, on ne va certainement pas vous laisser rentrer comme ça et vous aurez affaire à la police plutôt qu'au président ou à la reine. Mais Dieu, qui est très au-dessus de tous ces chefs d'État, il nous dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Et ce message, il est donc pour Asa, qui fait partie du peuple de Dieu, on pourrait dire qu'il est un chrétien, mais il y a un principe aussi qui s'applique à ceux qui ne sont pas chrétiens et qu'on trouve aussi dans la parole. En Jean 6, 37. En Jean 6, 37, Jésus dit quelque chose de similaire et dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Donc si vous n'êtes pas chrétien et que vous êtes attiré par le message de Jésus, allez à lui, il ne vous rejettera pas mais il vous accueillera. Il l'a montré de façon répétée dans son ministère terrestre et dans ses paraboles. On peut penser par exemple à tous ceux qu'il a guéris comme les 10 lépreux, la femme qui a touché son vêtement, la femme de mauvaise vie qui pleurait sur ses pieds, et tant d'autres. Et on peut penser aussi au fils prodigue. Toutes ces personnes avaient en commun d'être au bout du rouleau dans leur vie à cause des conséquences du péché. Ils sont allés à Jésus, et il les a tous accueillis, il les a guéris, il les a sauvés, il n'en a rejeté aucun. Et dans un certain sens, en fait, ça devrait être beaucoup plus compliqué de s'approcher de Dieu que du président de la République. Parce que le président de la République, c'est un homme comme nous. Mais Dieu, il n'est pas un homme. Il est saint. Il est parfaitement pur. Et nous, nous sommes impurs. Ses yeux sont trop purs pour regarder l'iniquité. Habacuc 1, 13. Et l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Exode 33, 20. Mais tout est rendu possible. Le fait d'accéder à Dieu est rendu possible par Christ. On a lu ce matin Romains 5, Éphésiens 2. Et en Éphésiens 2, on lit qu'étant jadis éloignés, nous avons été rapprochés par le sang de Christ, verset 13, et que par Christ, nous avons les uns, les autres, accès auprès du Père dans un même esprit. Donc verset 18. Donc la possibilité de s'approcher de Dieu, que nous soyons déjà chrétiens ou des non-chrétiens, mais attirés par Jésus, elle repose exclusivement sur le sang de Christ, versé à la croix pour la rémission de nos péchés. Je referme cette parenthèse importante et je reviens à l'encouragement contenu dans ce message. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Combien de chrétiens découragés ont besoin d'entendre ce message et de le garder dans leur cœur? Il y a peut-être des chrétiens ce matin qui se disent qu'ils sont au-delà de la miséricorde de Dieu, que leur péché est trop grand, que leur foi est trop petite, que leur vie spirituelle est trop pitoyable et que leurs échecs sont trop nombreux. Et à cause de ça, la dernière chose qu'ils oseraient faire, c'est s'approcher de Dieu. Mais Dieu leur dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Notre Dieu est un Dieu d'alliance qui prend plaisir à faire du bien, qui prend plaisir à la miséricorde et qui tend la main. La parole dit qu'il tend la main tout le jour. Et c'était même vers un peuple rebelle et contredisant. Et pourtant, il lui a tendu la main. Pendant ces 1000 années, vers 1400 jusqu'à la captivité, donc environ 1000 ans, il a tendu la main tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Il y a une parole de Dieu qui m'est revenue à l'esprit en préparant ce message, qui est très proche aussi, et qu'on trouve très souvent dans l'Ancien Testament, c'est l'injonction « Revenez ». Revenez. Par exemple, dans Malachie 3,7, « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » C'est exactement la même chose, n'est-ce pas? Et en fait, vous trouvez cette injonction de Dieu dans 10 livres de l'Ancien Testament, et à plusieurs reprises dans chaque livre, toujours dans le même esprit. Et en particulier, on la trouve chez 7 prophètes. On a l'impression que c'est leur message principal. Donc vous le trouvez chez Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël, Zacharie, Malachie. Et en fait, ce n'est pas surprenant, parce que le ministère des prophètes, dans l'Ancien Testament, c'est constamment d'exhorter une nation d'Israël qui tourne le dos à Dieu à revenir vers Dieu. Et vous voyez encore la miséricorde et la patience de Dieu sur donc les quelques mille ans qui séparent l'exode du temps des juges, du dernier prophète de l'Ancien Testament. Dieu ne se lasse pas de répéter le même message. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Et là aussi, combien y a-t-il parmi nous de chrétiens qui sont chrétiens depuis longtemps, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis plus longtemps encore? Ils sont un peu comme le peuple d'Israël, ils ont perdu la flamme. Des premiers temps, ils sont rentrés dans une routine, le monde a progressivement pris le dessus. Ils ont abandonné leur premier amour, comme dit Apocalypse. Et là aussi, le Seigneur leur dit, revenez à moi, et je reviendrai à vous. Maintenant, quatrième point de mon message, nous allons regarder ce que c'est que chercher l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que chercher l'Éternel? Et en fait, dans notre texte ici, j'ai vu trois choses qui caractérisent la recherche du Seigneur. La ferveur, la purification, sanctification, et le culte. Et on pourrait ajouter trois choses qui ne sont pas en lecture directe dans ce passage, mais qui sont implicites, et qui aussi ont trait au fait de chercher le Seigneur. C'est la prière, la foi, et la recherche de sa volonté dans la parole. Donc d'abord la ferveur. Donc à partir du verset 8, jusqu'à la fin du chapitre, on voit la réaction d'Asa et du peuple de Juda à l'injonction de Dieu prononcée par le prophète. Et cette réaction est marquée par le zèle et la ferveur. On voit au verset 12, il est dit « Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. » Et si vous pouvez regarder avec moi Deutéronome 4, 29. Donc là, on a vu cette expression de tout leur cœur et de toute leur âme. Et vous avez une expression très similaire en Deutéronome 4, 29. Deutéronome 4, 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Et donc, le contexte de ce passage, c'est la réaction du peuple d'Israël au châtiment de Dieu par la captivité, en fait, qui était donc prédite, enfin, dont la prophétie était donnée en Deutéronome. Et donc, on retrouve le même principe énoncé par le prophète Azaria. Dieu amène la calamité sur le peuple d'Israël, donc par la captivité, pour le pousser à se tourner vers lui, et le peuple fait de tout son cœur et toute son âme. Chercher le Seigneur est donc quelque chose de très sérieux, de très profond. Ce n'est pas une démarche nonchalante pour occuper le temps. On cherche le Seigneur quand on en ressent profondément le besoin dans son cœur. On a parlé donc de la ferveur, maintenant la purification ou la sanctification. Donc la recherche du Seigneur s'accompagne de purification. Ce qui se passe en Israël du temps d'Asa est véritablement un réveil, on pourrait dire, comme ce qu'on voit se passer du temps d'Ézéchias et aussi du temps de Josias. On voit qu'Asa fait disparaître les abominations du pays, il détruit l'idole d'Astarté, de sa mère, il enlève la dignité de sa mère. Donc il y a vraiment une purification. Maintenant, regardez avec moi Jacques, chapitre 4. Jacques chapitre 4 au verset 8. On a déjà lu un petit bout de ce passage, mais on va lire les versets 8 à 10. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Merci, frère. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. À nouveau, on voit que chercher l'Éternel, ce n'est pas une démarche légère et nonchalante. Ça vient du cœur d'un homme qui ressent sa misère à cause de son péché. Et il est comme Paul, il s'écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» La conscience de son péché est tellement vive qu'elle lui passe l'envie de rire. Et son rire se change en deuil. Quand on voit une personne qui a l'air vraiment quelqu'un d'habitude jovial, qui tout à coup a cessé de rigoler, on comprend que quelque chose de grave s'est passé dans sa vie. Est-ce qu'il a perdu un être cher? Est-ce qu'il a un grave problème de santé? Est-ce qu'il a perdu son travail? Et en fait, Jacques nous dit que nous devons être aussi tristes au sujet de notre péché que si nous venions de perdre un être cher, donc un deuil. Nous devons abandonner cette approche nonchalante de la vie et réfléchir sérieusement, rentrer en nous-mêmes. Mais on a une promesse certaine, le Seigneur s'approchera de vous et vous élèvera. Toujours dans la même idée de la sanctification et de la recherche du Seigneur, on peut regarder un magnifique passage qui est en Jean 14, 23. Jean 14, 23. En Jean 14, 23, le Seigneur Jésus nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » On voit ici quelqu'un qui aime le Seigneur, et il le cherche en gardant sa parole, c'est-à-dire en pratiquant ses commandements. Et au verset 21 du même chapitre, Jésus a dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et c'est ce qu'a fait Asa, ce qu'ont fait Asa et le peuple d'Israël. Ils ont obéi au commandement du Seigneur en luttant contre l'idolâtrie. Et dans tout le pays, ils ont rétabli l'autel de l'Éternel. Et le verset 15 de notre texte, du texte de l'Ancien Testament, nous dit qu'ils trouvèrent l'Éternel. Et maintenant, le verset 23 de Jean 14 nous dit ce que signifiera trouver l'Éternel. Il nous dit, le Fils et le Père viendront donc à celui qui le cherche, et ils feront leur demeure chez lui. Peut-on imaginer une plus belle promesse et aussi une plus belle définition de trouver le Seigneur? Chercher l'Éternel, voilà ce que c'est que le trouver. Mais ça implique de le chercher en gardant sa parole et en s'attachant à respecter ses commandements. On voit aussi dans ce chapitre le culte, en fait, comme moyen de chercher le Seigneur. Au verset 11, on voit que la recherche du Seigneur se fait dans le cadre du culte. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Donc c'était la pratique du culte à cette époque-là, sacrifice. Nous pratiquons le culte différemment, mais nous avons la table du Seigneur. Et évidemment, la prédication de la parole, mais c'est la table du Seigneur, qui sont moyens privilégiés pour rechercher le Seigneur. Et je pense que c'est souvent un sujet de perplexité de voir des frères et des sœurs en Christ qui ne veulent pas participer au repas du Seigneur, qui n'osent pas participer au repas du Seigneur, alors que le Seigneur les y invite, et que c'est justement un moyen de le chercher. Parce que c'est une table qui a été dressée pour des pécheurs. Autre moyen, évidemment, de chercher le Seigneur, c'est la prière. La prière n'est pas mentionnée spécifiquement dans ce passage. Elle est sans doute le moyen privilégié pour chercher le Seigneur. Et on a vu que le prophète Azaria, au verset 2, utilise cette phrase « Si vous cherchez l'Éternel, vous le trouverez ». Or, ces paroles se trouvent presque mot pour mot dans la bouche de Jésus en Luc 11, verset 9. Vous pouvez regarder avec moi Luc 11, verset 9. Luc 11, verset 9. « Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Luc 11, verset 9 et verset 10. « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Jésus a prononcé ces paroles dans un passage qui était consacré à la prière. Il vient de raconter la parabole de l'homme importun qui vient réveiller son ami la nuit pour obtenir du pain pour ses invités. Et donc pour Jésus, chercher et trouver l'Éternel passe par la prière. Mais à nouveau, remarquez l'intensité. Ce n'est pas une prière nonchalante, c'est une prière importune, c'est une prière... Le besoin est tellement pressant qu'on fait fi des convenances et qu'on frappe de toutes ses portes, de toute sa force aux portes, à la porte du Seigneur et qu'on lui crie, on crie à lui, on lui dit « Écoute-moi ». Donc il y a vraiment une intensité chez la personne qui cherche le Seigneur, parce qu'il a vraiment besoin de lui. Et donc Jésus nous encourage à cette ferveur. Enfin, la foi... C'est assez évident dans la vie d'Asa qu'il y avait la foi. Et chercher le Seigneur, évidemment, présuppose la foi. Et on le lit en Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et enfin, la recherche de la volonté du Seigneur dans sa parole. On a déjà vu tout à l'heure donc la pratique des commandements, le fait d'aimer le Seigneur. Si on pratique les commandements et si en le faisant, on montre qu'on l'aime, il viendra faire sa demeure chez nous. Donc notre passage ne parle pas de rechercher la volonté, le passage de l'Ancien Testament, il ne parle pas de rechercher la volonté du Seigneur dans sa parole, il parle seulement de chercher le Seigneur, mais on remarque déjà qu'Asa a agi sur une instruction d'un prophète, donc de la parole de Dieu. Et puis aussi, on a un passage célèbre de l'Ancien Testament qui consacre 176 versets à la prière d'un homme à propos de la parole de Dieu. Et ce passage, c'est le psaume 119. Et je cite pour vous deux versets. Verset 10, il dit « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements ». Et le verset 2, heureux ceux qui gardent les préceptes de l'Éternel, qui le cherchent de tout leur cœur. Donc on voit qu'il y a un lien très fort entre la recherche de l'Éternel et la connaissance, l'étude et la pratique de ses commandements. Voilà. Donc maintenant, il reste une dernière chose à voir dans ce passage, dernière partie de ce message. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc c'est la deuxième partie du verset 2. Écoutez-moi, Asa et tout Juda. Et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc ça, c'est une mise en garde solennelle de la part de Dieu. Une mise en garde solennelle. Donc autant la première partie du verset est pleine d'encouragement, cela vient un petit peu comme une douche froide, n'est-ce pas ? Mais en fait, cette mise en garde, elle n'est pas différente de mise en garde similaire qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et je vous invite à regarder dans vos Bibles, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, au verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement, et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Quand on devient chrétien, il n'y a pas de retour en arrière. Ou alors on n'est pas chrétien. Nous tournons le dos à notre vie passée, et nous nous tournons vers Dieu. Et nous ne voulons pas faire comme la femme de Lot, qui, c'est l'image de la personne qui a jeté le regard, un regard de nostalgie, vers sa vie passée, qui fut transformée en une statue de sel. Mais on a aussi un passage très clair dans la bouche de Jésus, en Luc 9, où il parle à quelqu'un qui voulait d'abord prendre congé de ceux de sa maison, et il leur répond « Quiconque met la main à la charrue », Luc 9, 62, « Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Donc on a vraiment une très forte intensité dans cette recherche et aussi cette mise en garde. En fait, avec Dieu, les choses sont binaires. Il n'y a jamais de situation au milieu. Il n'y a pas les chrétiens très impliqués, les chrétiens moyennement impliqués, puis les pas chrétiens. Il y a soit nous le cherchons, et comme on a vu qu'il faut le chercher, il nous promet que nous le trouverons, soit nous l'abandonnons et nous abandonnera. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre le verset 13 du chapitre 15 de Chroniques, de 2 Chroniques. Ce verset 13, quand on le lit, il est assez terrible, il dit que quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Alors l'homme du 21e siècle qui vit dans une société, donc dans notre société qui est multiculturelle, multireligieuse, où l'Église est entièrement séparée de l'État, il est absolument horrifié par une telle mesure, n'est-ce pas ? Mettre à mort des personnes qui ne cherchent pas l'Éternel. Je pense que ce serait une erreur de raisonnement que d'évaluer cette mesure, cette condamnation, suivant nos critères à nous. Enfin, les critères modernes, j'entends. Pas nécessairement nos critères, mais les critères modernes. Toutefois, je pense que ce que traduit cette condamnation, cette mise à mort, cette condamnation à mort, c'est que le fait de chercher Dieu ou de ne pas le chercher, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question, là, on a une image très forte. C'est une question de vie ou de mort. Si vous le cherchez, c'est la vie. Si vous le cherchez pas, c'est la mort. Alors, peut-être pas dans notre société la mort tout de suite, mais ce sera la mort à la fin, la mort éternelle. Parce que ça viendra de toute façon, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas démarrer une discussion ou un débat sur le bien fondé ou non de cette condamnation à mort pour ceux qui ne cherchaient pas Dieu. Approche, n'est-ce pas, qui est tellement loin de la façon de penser d'aujourd'hui. Mais je me contenterai de marquer que cela venait probablement de Dieu. Comme par exemple la peine de mort qui était infligée à un homme qui avait ramassé du bois le jour de sabbat, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le temps de l'Exode. Et cette peine de mort, elle avait été donnée clairement par Dieu. Et donc si c'est donné par Dieu, ça me suffit pour l'accepter et le regarder avec révérence et pas discuter. En conclusion, à notre message. Tout d'abord, je voudrais m'adresser aux personnes qui ne cherchent pas le Seigneur. Les personnes dans cette assemblée qui ne cherchent pas le Seigneur. Soit parce qu'elles ne veulent pas le chercher. Soit parce qu'elles n'ont pas vraiment envie de le chercher. Et je pense qu'il faut que chacun soit honnête avec soi-même. Il y a des personnes qui savent qu'ils devraient chercher le Seigneur, mais ce n'est pas leur priorité. Et je dois vous mettre en garde solennellement, comme le fait la parole. Vous êtes en danger parce que vous risquez d'être dans la catégorie de ceux qui l'abandonnent. Si vous ne le cherchez pas, risquez d'être dans la catégorie de ceux qui l'abandonnent. Et la parole de Dieu est claire. Si vous l'abandonnez, il est dit qu'il vous abandonnera. Et rentrez en vous-même et méditez sérieusement sur ces choses parce que votre vie éternelle en dépend. Alors aujourd'hui, on ne met pas à mort les gens qui ne cherchent pas Dieu, n'est-ce pas ? Mais j'ai envie de dire, c'est reculer pour mieux sauter. Et ensuite, dans l'assemblée, sans doute des personnes qui ne cherchent pas le Seigneur parce qu'elles ne savent pas qu'il faut le chercher. On ne leur a jamais dit. Alors merci Seigneur que vous soyez là ce matin pour entendre ceci, c'est que si vous êtes attiré par la personne de Jésus-Christ, allez à lui. Il a dit qu'il ne vous rejettera pas. Il ne rejettera aucun de ceux qui viennent à lui. Si vous êtes attiré par lui, cherchez-le. Il a dit que vous le trouverez. Il y a certainement aussi des personnes dans l'assemblée qui passent par une période très difficile, quoi que ce soit, travail, famille, santé, et qui se demandent quel est le sens de ces difficultés. On est tous, je pense, passés par là, certains plus que d'autres. Mais je crois que c'est important de se rappeler que le passage nous dit que la souffrance envoyée par Dieu est ou la calamité, ou les problèmes plus ou moins intenses, ce doit être vu comme une incitation de la part de l'Éternel à le chercher et à revenir vers lui. Et enfin, peut-être que la majorité des personnes dans l'Assemblée ici, en tout cas beaucoup, ils aimeraient de tout leur cœur chercher le Seigneur, mais ils ont l'impression qu'ils ne le cherchent pas de tout leur cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Et mon conseil, c'est le suivant, c'est mettez-vous à genoux et priez. C'est vrai que le Seigneur met la barre très haut, il demande que vous le cherchiez de tout votre cœur, mais il peut agir puissamment dans votre cœur par le Saint-Esprit. Et demandez-le lui. Il peut mettre une flamme dans votre cœur, demandez-le lui. Et aussi méditez sur vos voies, peut-être que vous avez laissé plus ou moins le monde prendre le dessus, ou peut-être que vous avez laissé le péché s'installer dans votre vie. Parlez-en au Seigneur, il a dit « revenez à moi, je reviendrai à vous ». Parlez-en, Seigneur, et repentez-vous, dites-le lui. Mais surtout, cherchez-le dans la prière sans vous relâcher. Frappez à la porte et demandez-lui des pains pour vos invités et faites-le de façon importune, avec une sainte importunité. Et reposez-vous sur ses promesses. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Et celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Christ. Mais surtout, cherchez-le de peur que vous ne l'abandonniez et qu'il vous abandonne. Prions.